une autre histoire.
Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur.
Une autre histoire, une chronique proposée par Robert Martin.
Le soir du 27 février 1933, voilà exactement 90 ans, à Berlin, la police est avertie d'un début d'incendie au Reichstag, le Parlement allemand. Cependant que le feu embrase l'immeuble, les policiers se saisissent d'un jeune illuminé, torse nu, errant dans le bâtiment. On apprendra qu'il s'agit d'un maçon hollandais de la mouvance communiste et en apparence déséquilibré, Marinus van der Lubbe. Il sera considéré comme responsable de l'incendie et exécuté. Dans les faits, le doute demeure. Certains historiens pensent qu'un détachement des sections d'assaut nazi, les SA, aurait emprunté un passage souterrain menant de la demeure d'Hermann Göring au Reichstag et y aurait répandu des produits hautement inflammables. La présence de van der Lubbe sur place au même moment, allumant de son côté de petits foyers d'incendie, n'aurait été qu'une coïncidence, à moins que des agents nazis aient poussé le Hollandais à la faute. Toujours est-il qu'Hitler va tirer habilement parti de la présence de ce pyromane sur les lieux du drame. Sitôt après l'incendie, le nouveau chancelier du Reich, non officiel de la République allemande fondée à Weimar, révèle sa véritable nature. Dès le lendemain, le 28 février, il attribue l'incendie à un prétendu complot communiste et fait arrêter 4000 responsables du KPD, le Parti communiste allemand. Le même jour, il fait signer par le président von Hindenburg un décret pour la protection du peuple et de l'État qui suspend les libertés fondamentales, donne des pouvoirs de police exceptionnels aux régions et met fin à la démocratie. Un communiste bulgare, Georgi Dimitrov, est présenté comme la tête du complot. Il est jugé, mais échappe à la mort et deviendra plus tard le maître tout-puissant de son pays, la Bulgarie. Le 23 mars 1933 est ouvert près de Munich, à Dachau, le premier d'une longue série de camps de concentration. À partir du 31 mars, il va recevoir les opposants politiques et les suspects. Les nazis peuvent dès lors mener une campagne électorale qui mêle terreur et propagande sans qu'aucun opposant soit en mesure de se faire entendre. Malgré cette pression, les élections du 5 mars 1933 ne donnent aux partis nationalistes regroupés autour des nazis qu'une simple majorité au Parlement. Les nazis eux-mêmes obtiennent 17 millions de voix, 44%. C'est encore insuffisant à Hitler pour modifier la constitution en sa faveur, il lui manque la majorité des deux tiers.
Jahrelang haben diese Parteien die deutsche Freiheit vergewaltigt, den deutschen Menschen geknebelt und geschlagen. Zwei oder drei Monate vergangen sind, wird euer Terror beseitigt sein. So wahr wir das Reichsgericht.
Les sociodémocrates conservent 7,2 millions de voix et les communistes 4,8 millions de voix. Zentrum, le parti catholique du centre, accroît pour sa part le nombre de ses électeurs et avec son allié, le parti catholique du peuple bavarois, obtient un total de 5,5 millions de voix. Habilement, sur les conseils de son ministre de la propagande, Joseph Goebbels, Hitler organise en grande pompe la cérémonie d'ouverture du nouveau Reichstag dans l'église de Potsdam où repose le grand Frédéric II. La cérémonie a lieu le 21 mars 1933, jour anniversaire de l'ouverture par Bismarck du premier Reichstag du précédent Reich en 1871. Le vieux maréchal président von Hindenburg en a les larmes aux yeux. Il serre chaleureusement la main du chancelier nazi qu'il avait précédemment en horreur. Deux jours plus tard, le 23 mars, l'Assemblée se réunit à Berlin, à l'Opéra Kroll. Elle se voit soumettre par Hitler un décret d'habilitation qui ne projette rien moins que de donner au chancelier un pouvoir législatif exclusif pendant 4 ans, autrement dit, le droit de gouverner et légiférer à sa guise sans l'accord des députés. Les sociodémocrates, dans un ultime sursaut de lucidité, refusent le vote du décret. Hitler à la tribune les couvre d'un torrent d'injures. Mais le chef du Zentrum, Monseigneur Ludwig Kass, convainc son groupe parlementaire de voter pour Hitler contre la vaine promesse que celui-ci respecterait le droit de veto du vieux président von Hindenburg. Fort de la majorité indispensable des deux tiers, l'ancien clochard de Vienne dispose dès lors d'un pouvoir dictatorial sur la plus grande puissance d'Europe continentale. Dès le 31 mars, faisant usage du décret d'habilitation, Hitler dissout les diètes, c'est-à-dire les assemblées législatives des différents États qui composent la République allemande, à l'exception de la Prusse. L'Allemagne devient sans coup férir un État centralisé. Par ailleurs, le 1er mai 1933, Hitler s'en prend aux syndicats. Il annonce la dissolution des organisations ouvrières et patronales au sein d'une organisation commune inféodée au parti nazi, le Front allemand du travail. Dès le lendemain, dans la plus totale illégalité, les chemises brunes, les SA, occupent les locaux des syndicats de gauche, proches du parti communiste ou des sociaux-démocrates. Le tour des syndicats catholiques viendra, mais un peu plus tard. Dans le même temps, le régime resserre les rangs de ses partisans en multipliant les opérations antisémites, boycott des magasins juifs le 1er avril, éviction des fonctionnaires juifs par une loi promulguée le 7 avril, éviction musclée des enseignants juifs ou réputés hostiles au régime. Le point d'orgue de cette campagne est, comme on l'a appelé, l'auto-da-fé rituel des écrits juifs nuisibles, le soir du 10 mai 1933. La mobilisation internationale oblige toutefois Hitler à un repli tactique. Les campagnes antisémites s'interrompent pendant près de 2 ans, au point que des juifs allemands qui avaient fui le pays choisissent d'y revenir. L'année suivante, le 2 août 1934, le vieux président de la République allemande, le maréchal von Hindenburg, soldat égaré dans la politique, selon ses propres termes, rend l'âme, il a 86 ans. Hitler profite de sa disparition pour réunir sur sa tête les fonctions de président et de chancelier. Il proclame l'avènement d'un troisième Reich allemand dont il se présente comme le Führer, guide en allemand, avec un pouvoir dictatorial. C'est l'aboutissement de la vision nazie de l'État, un peuple, un État, un guide. À l'étranger, l'inquiétude à propos de Hitler commence à percer doucement, mais c'est une autre histoire.
Une autre histoire ? Notre histoire ?